Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show devant ciné avec les sorties du 8 novembre. Bonjour Léo.
Et bonjour Vanessa.
Et voilà, on se retrouve pour la sortie ciné. Et quelle sortie je vais mettre en avant 3 films, mais je vous assure, il y a au moins 8 sorties ciné. Je vous l'ai dit la dernière fois, on peut pas tout voir. C'est impossible. Même avec la plus grande volonté du monde, on peut pas se couper. Donc c'est pas possible. Et puis on a aussi des avant-premières qui ont lieu donc c'est très très compliqué. Mais je vais mettre en avant 3 films. On va commencer par La Passion de Dodin Bouffant. Et ce film, s'il vous dit quelque chose, c'est normal, parce que c'est lui qui va représenter la France aux Oscars cette année. Oui. Alors, c'est vrai que le choix était discutable. Beaucoup ont dit, oui, ça aurait dû être La Palme d'Or, Anatomie d'une Chute. Moi, je suis pas trop d'accord. C'est vrai que mon coup de cœur de cette année et reste mon coup de cœur de 2023, c'est Je verrai toujours vos visages la justice restaurative. C'est vraiment quelque chose où je me disais que ça pouvait vraiment franchir les frontières. Mais soit, ils ont choisi La Passion de Dodin Bouffant. Et c'est vrai qu'il y a des côtés où je me dis, ils ont peut-être raison sur un point. Mais je vais laisser Léo vous dire de quoi parle le film.
Eugénie, cuisinière hors pair, est depuis 20 ans au service du célèbre gastronome Dodin. Au fil du temps, de la pratique de la gastronomie et de l'admiration réciproque, est née une relation amoureuse. De cette union naissent des plats tous plus savoureux et délicats les uns que les autres, qui vont jusqu'à émerveiller les plus grands de ce monde. Pourtant, Eugénie, avide de liberté, n'a jamais voulu se marier avec Dodin. Ce dernier décide alors de faire quelque chose qu'il n'a encore jamais fait, cuisiner pour elle.
C'est un film de Tran Anh Hung. Et ça faisait 8 ans qu'on n'avait pas vu de film de ce réalisateur. Et il change complètement la donne. C'est un film très beau, je vais pas mentir. La photographie est magnifique. Et c'est une ode à l'art culinaire. C'est vraiment ça. Alors, je peux vous donner un conseil. C'est manger avant d'y aller. Parce que sinon, vous allez sortir de la salle et vous allez dire, oh, j'ai faim. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai très 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 faim. Parce que, en fait, dans pratiquement toutes les scènes, on voit un plat. On voit la préparation, on voit cet amour de la cuisine détaillé comme une poésie. C'est vraiment de la poésie culinaire. Et tous les aliments prennent vie. En fait, la cuisine, les plats préparés, ce sont des personnages. Je retiens notamment le pot-au-feu que j'ai très envie de me faire un pot-au-feu à cause de ce film, je vous l'avoue, parce que il lui donne tellement d'amour à ce pot-au-feu, dans la préparation, dans l'effeuillage des légumes. Oui, je vais pas dire autre chose. J'appelle ça un effeuillage parce que je trouve ça vraiment très beau, vraiment. Je trouve que le fait que les mains soient aussi filmées de telle manière qu'on voit vraiment la découpe, qu'on voit même les déchirures de certains aliments. Je trouve que c'est excellent. Et puis il y a ce fait, on voit aussi cette fumée. Vous savez la fumée là où normalement on sent l'odeur. Eh bien, on a très envie de renifler comme le fait si bien à l'écran Benoît Magimel ou Juliette Binoche, qui est la cuisinière de Dodin Bouffant et qui joue Eugénie. Et ce duo est sublime. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ils sont incroyables. Ils ont une palette de jeux, mais ils peuvent tout faire, en fait. Benoît Magimel et Juliette Binoche sont vraiment des très, très grands du cinéma. Et c'est pour ça que je comprends cette position de dire, oui, on va les envoyer aux Oscars parce que ils ont vraiment cette incroyable palette de jeux, cette incroyable lumière, cet incroyable charisme, aussi bien l'un que l'autre, ne s'en laisse pas compter. On voit Juliette Binoche en cuisinière, endurcie, qui est très amoureuse de Dodo Bouffant, mais qui ne veut pas lâcher sa liberté, qui veut vivre les choses comme elles sont, lui faire la cuisine. En fait, c'est faire l'amour en cuisine. Voilà, c'est ça. Elle lui donne beaucoup d'amour avec sa cuisine. Et c'est vraiment très, très beau. Et c'est vrai que Dodin Bouffant, Benoît Magimel, voilà, il joue un homme transi d'amour pour Eugénie et il va se mettre à la cuisine et son pot au feu est sublime. Je vais pas mentir. La distribution à côté est très bien aussi. Je vois la jeune fille Galatea Belugi qui joue Violette et aussi Bonnie Chagnot-Ravoir qui joue Pauline. Et en fait, Pauline a un don pour la cuisine, un don pour ressentir, pour savoir les saveurs de chaque élément qui complète, enfin qui forme le plat. Voilà. Et c'est fou comment elle décrit la cuisine. Et justement, Dodin Bouffant voit cette lumière en elle et il va la mettre en avant. Il veut la faire devenir son apprentie. Il va se passer quelque chose qui va remettre en question cette idée, mais elle est tellement volontaire, elle est tellement imbibée par la cuisine, et elle veut tellement qu'il l'admire, parce que c'est ça en fait, c'est le fait que, eh bien, devenir son élève, son apprenti, et qu'il soit son maître et qu'il lui montre tout l'art culinaire dont il a le secret et dont il a les ficelles. Oui, c'est un film sur la cuisine. Oui, c'est un film qui parle énormément d'aliments. Et je vous dis, c'est tout en poésie. Et on a vos retours.
J'ai trouvé ça super. Mais un petit peu long quand même. Merci.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Jeanne.
Je l'ai trouvé très esthétique. Très belle photo, très belle mise en scène, mais je l'ai trouvé un peu long. Voilà.
Je pourrais avoir votre prénom ?
Nicolas.
J'ai beaucoup apprécié le film. Je pense qu'il y a beaucoup de... on parle beaucoup de cuisine, beaucoup de... C'est un film fait pour des gastronomes, je pense. Hein. Si on n'apprécie pas la cuisine, je pense qu'on n'appréciera pas le film. Après, il est très, très 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 bien interprété. Les interprètes sont sublimes dans ce rôle. Voilà. Après, c'est un film qui est très lent, qui nous permet d'apprécier tous les moments, quoi. Hein. Voilà, la lenteur nous permet d'apprécier tous les moments. Voilà.
Merci. Je pourrais avoir votre prénom ?
Jean-Paul.
C'est magnifique. C'est une ode à la cuisine, à gastronomie. Il y a peu de dialogue et c'est franchement, qu'est-ce qu'on a pensé ?
Extraordinaire.
C'est une onde à la cuisine, et puis pas de musique, peu de dialogue, on fait la cuisine, on est dans les odeurs.
Ah, c'est vrai, on a fait après.
C'est sensuel de toute façon, très très sensuel. La façon
dont... En fait, c'est fascinant.
Merci, je pourrais avoir vos prénoms ?
Marie-Laure. Anne-Marie.
C'est pas facile, hein, c'est pas facile, hein, parce qu'il faut, c'est le cas de le dire, il faut le décanter, il faut le temps de le digérer, hein. Je suis étonné là, parce que ça, en fait, c'est un film d'un Asiatique que je ne connais pas. Et le personnage de Dodin Bouffant, que je connaissais le nom, bien évidemment, mais le film est très intéressant dans le sens où on ne voit on vit chaque moment, il ne s'adresse qu'à des personnes qui aiment la cuisine, qui savent cuisiner, parce que c'est quand même, c'est très technique, j'allais dire presque intellectuel, dans le domaine de la culture culinaire. Et donc, c'est fait et c'est filmé avec des images magnifiques. Mais il y a un rendu, il y a tout un ensemble qui est une sorte d'harmonie. Et c'est ce qu'on demande à la cuisine, à la grande cuisine. Hein. Alors, bien évidemment, là, on voit ce qui est assez étonnant. Ce qui m'a étonné, c'est qu'on voyait qu'on cuisinait finalement, non pas comme aujourd'hui, mais avec la restitution des goûts bien séparés. Alors que oui, moi, j'ai connu, en allant au restaurant dans les années 80, etc., la cuisine, en fait, il y avait par exemple de très bonnes sauces, mais les sauces couvraient, si on prenait des coquilles Saint-Jacques, on n'avait pas le goût des coquilles Saint-Jacques. Et c'est la nouvelle cuisine, c'est la cuisine des années suivantes qui ont permis de rétablir un petit peu. Et ça, on le voit dans le film, c'est assez étonnant. Mais parce que là, c'est de la grande cuisine bourgeoise et qui après, bon, était descendue, peut-être non pas socialement, mais je veux dire qui s'est répandue et puis qui était adaptée, etc. et qui était peut-être simplifiée. Bon, ça dépend aussi du milieu social, des familles, etc. Hein. Bon, moi, j'avais la chance, ma mère cuisinait très bien, mais je suis né de l'autre côté de la Méditerranée, mais donc c'était une cuisine non pas mixte, parce qu'elle était quand même fortement influencée par la cuisine française, hein, donc j'étais habitué à cette cuisine, et je vois par exemple une blanquette de veau. J'ai une de mes nièces qui elle la prépare comme un, je lui ai dit, tu la prépares comme un sauté de veau ou une blanquette de veau. Il y a le mot blanc dedans, donc il faut faire blanchir la viande. Bon, mais là je me suis un petit peu éloigné du film.
C'est pas bon, grave, ceci dit, votre ressenti par rapport à d'autres plats.
Parce que c'est pas évident d'intéresser quand même un public avec un film aussi pointu dans ce domaine-là. Moi-même, j'adore cuisiner. Je vous ai dit donc, il y a ma mère qui m'a appris à cuisiner, mais mon père cuisinait très bien. Et autour de moi, mes neveux, tout ça, sont de bons cuisiniers et amateurs de bonne cuisine. Donc, en ayant des exigences, avec le souci donc d'harmonie, de qualité. Il faut passer souvent par la qualité des produits, hein, si on veut de la bonne cuisine. Ça veut dire des moyens. Mais ceci dit, on peut faire de la très bonne cuisine avec des produits simples. Ce qu'on pourrait reprocher aux grands restaurants, c'est justement des fois de faire une cuisine trop avec des produits très coûteux. Et je pense qu'on peut faire d'excellentes choses avec des produits beaucoup plus simples. Hein. Et là aussi, avec la qualité, puis avec le souci, comme on voit dans le film, du moindre détail, etc. C'est très important. Mais là, donc, dans le film, il y a une minutiosité qui m'a étonné et qui a restitué un petit peu ce qui s'est passé dans les décennies qui ont suivi mon enfance, qui remonte au milieu du XXe siècle. Et donc, j'ai connu la nouvelle cuisine. On a pendant longtemps parlé de la nouvelle cuisine, mais qui a permis justement de restituer, je pense, cette recherche du goût. Et que là, on retrouve dans le film. C'est ce parallèle que moi, j'ai retrouvé. Et cette épure, ce besoin de... Bon, qui est peut-être lié aussi à la culture. Je ne sais pas, il est japonais, vous le savez, le réalisateur.
Ouais, je crois qu'il est japonais. Ouais.
Il est japonais. Enfin, voilà, c'est un très, très beau film, quand même. Là, je me suis régalé.
Je vois ça, en tout cas. Merci beaucoup. Je pourrais avoir votre prénom ?
Mon prénom, c'est Guy.
N'hésitez pas à découvrir ce film au Pâté Wilson. N'hésitez pas à vous asseoir dans votre siège et profiter d'un cours de cuisine. Oui, parce que vous pouvez prendre de notes. Hein. Il y a vraiment des recettes magnifiques. Et en plus, comme le disait la personne que vous avez pu entendre, qui est restée un bon moment avec moi, mais ce monsieur, voilà, il a été replongé dans son enfance avec cette cuisine, avec sa mère qui faisait des plats assez fous, et même sa famille. Et du coup, il a dit, et c'est bien, c'est que chaque aliment est sublimé. Et c'est ça aussi. La lumière est très importante dans ce film. La lumière des bougies, la lumière du jour. Ils ont vraiment fait un excellent travail de lumière. Il y a une scène très forte où toutes les personnes autour de lui sont dans l'ombre ou dans un flou. Et lui, il est éclairé par un filet de soleil, un filet de lumière qui donne une impression de que quelque chose est posé sur sa tête, que quelque chose l'entoure et il a une présence autour de lui. Mais ça, vous le découvrirez dans ce film. Et pour vous donner envie encore plus d'aller voir le film, on vous passe la bande-annonce.
Tu connais cette sauce ? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans ?
De lard fumé, des champignons.
Tu vas voir la crème fraîche ?
Le carré de veau, s'il vous plaît.
Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi.
Du persil.
Et aussi du paprika et une ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie.
Parlez pour vous, je me sens en plein été.
Je vous le demande encore, Eugénie, marions-nous.
Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi ?
Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide.
C'est un peu risqué et audacieux.
Je suis si heureuse et reconnaissante.
Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût.
Oui, monsieur.
Les potages seront un de caille au coulis de la reine.
Pourquoi vous n'avez jamais à table avec nous ?
Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
Eugénie ? On ne sait pas de quoi souffre Eugénie.
Je me sens parfaitement bien.
Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu.
Le deuxième film dont je vais vous parler, c'est The Marvel. C'est Captain Marvel 2. Voilà, c'est vrai que le nom The Marvel peut décontenancer. On se dit, ah tiens, bizarre, pourquoi The Marvel avec un S ? Eh bien, c'est parce que Brie Larson, qui interprète Carol Danvers, Captain Marvel, n'est pas toute seule et va travailler en équipe. Léo ? Je te laisse la parole.
Carol Danvers, alias Captain Marvel, doit faire face aux conséquences imprévues de sa victoire contre les crises. Des effets inattendus l'obligent désormais à assumer le fardeau d'un univers déstabilisé. Au cours d'une mission qui la propulse au sein d'un étrange vortex, étrangement lié aux actions d'une révolutionnaire Kree, ses pouvoirs se mêlent à ceux de Kamala Khan, alias Miss Marvel, sa superfan de Jersey City, et à ceux de sa nièce, la capitaine Monica Rambeau, désormais astronaute au sein du Sabre. D'abord chaotique, ce trio improbable se retrouve bientôt obligé de faire équipe et d'apprendre à travailler de concert pour sauver l'univers. Un seul nom pour cela, The Marvels.
Voilà, la réponse est dans le synopsis. The Marvels. C'est réalisé par Nia DaCosta. Et c'est vrai qu'en 2019, on avait découvert Captain Marvel sous les traits de Brie Larson, Carol Danvers. Et elle joue avec brio son rôle de Captain Marvel. Elle est vraiment entrée dans le cœur des petites filles et même des grandes en se disant « Waouh, elle est super badass !» et elle va tous les exploser. Et on attendait avec impatience son retour. Et ça y est, c'est fait et elle revient en force, notamment avec Captain Monica Rambeau, qui n'est autre que sa nièce qu'on avait vue dans le premier film. Alors oui, elle a grandi, hein, bien sûr, mais et elle aussi a des pouvoirs parce que eh bien il y a eu une catastrophe, l'éclipse, et elle a touché quelque chose et ça lui a transmis des pouvoirs de lumière, comme sa tante, Captain Marvel. Et on retrouve aussi Iman Vellani, qui joue le rôle de Kamala Khan, alias Mrs. Marvel. Eh oui, Mrs. Marvel, eh bien, c'est la série sur Disney+, qui est sortie il y a une saison. Et on se retrouve, en fait, au début du film, comme on quitte la série. Donc, c'est vrai que on peut se dire, il faut voir la série pour comprendre le film, mais pas du tout, puisque voilà, elle arrive, on voit ce qui se passe, mais c'est sûr que si vous connaissez ses pouvoirs un peu avant, en ayant vu la série, c'est un plus, parce que vous vous dites, ah oui, elle peut faire ça, elle peut faire ça, elle peut faire ça. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, elles vont se retrouver à toucher quelque chose qu'il ne faut pas, et elles vont transmuter. Ça veut dire que au moment où elles utilisent leur force de la lumière, eh bien, l'une prend la place de l'autre, et c'est très bien fait. C'est des scènes d'action assez folles où elles transmutent, mais on s'y attend pas du tout. À un moment donné, elles utilisent la lumière, elles transmutent pas, et le moment d'après, elles transmutent et elles se retrouvent dans des galères pas possibles. Mais oui, parce qu'elles ont pas le même pouvoir. Même si elles utilisent la lumière, elles ne l'utilisent pas de la même façon. Et elles n'ont pas la même force non plus. Captain Marvel comparé à Mrs. Marvel, c'est pas du tout la même force d'attraction. Et c'est très désopilant sur certains moments, parce que les ennemis qui sont en face, ils savent plus sur quel pied danser. Ils se disent, oh mon Dieu, on se retrouve devant l'annihilatrice, donc qui est Captain Marvel, ils l'appellent comme ça, ils en ont très très peur, et ils pensent qu'elle va détruire complètement la vie des Skrulls. Puisque, rappelez-vous, au premier, elle était partie en guerre contre eux et elle voulait mettre fin à l'intelligence artificielle qui dirigeait les Skrulls pour les libérer. C'était son but. Mais là, on apprend que c'est elle l'annihilatrice, c'est elle la méchante pour les Skrulls. Et en face d'elle, elle va avoir affaire à une certaine personne qui s'appelle Dark Ben, qui est jouée par Zoe Ashton, une sacrée méchante, qui est une dure à cuire et qui est là pour protéger sa planète et qui va tout faire, même sacrifier des mondes, des peuples, pour sauver sa propre planète qui est en perdition. Et ça, et son peuple aussi. Et ça, c'est aussi très fort. Et il y a les bracelets. Et oui, les bracelets, dont le bracelet que porte Iman Vellani, Kamala Khan, qui lui avait été transmis par sa grand-mère. Et l'autre personne, donc Dark Ben, retrouve le deuxième bracelet. On en avait entendu parler, c'est une légende, il y a deux bracelets, et avec ces deux bracelets, eh bien, on a une force colossale, et on peut exploser tout l'univers. Donc là, c'est hyper dangereux, donc le but, c'est d'arriver à se mettre d'accord entre Carol Danvers, Kamala Khan, et Monica Rambeau, pour arriver à se servir de leur pouvoir. Et ben, c'est pas chose facile, hein. Ça part dans tous les sens, c'est très drôle, on passe un bon moment, c'est très enlevé, c'est vivant, et on s'ennuie pas une seconde, et même à la fin, on trouve que c'est trop court. Alors, les avis divergent, comme d'habitude, et vous nous connaissez, c'est vos avis. On les met en lumière, que ce soit pour ou que ce soit contre.
Moi j'ai bien aimé, mais après je regarde pas trop souvent ce genre de film, du coup je saurais pas dire par rapport à ça.
Non, mais juste votre ressenti par rapport à ça.
Ah non, j'ai bien aimé, c'était un peu court du coup je trouvais. Mais sinon oui, il était bien, ouais, j'ai aimé.
Merci beaucoup et restez parce que je pense qu'il va y avoir une scène. Oh, j'ai oublié de vous demander votre prénom.
Clément.
Ben, au départ, en fait, j'étais perplexe, on va dire. Mais finalement, avec ce qui se passe et ce qu'on a vu vraiment vers la fin, c'est vraiment intéressant à voir. Voilà.
Merci beaucoup. Je pourrais avoir votre prénom ?
David.
C'est pas bien du tout.
C'est pas bien.
Non, pourquoi ? Il y a un problème de narration, quoi. Non, c'est franchement... Je culpabilise de plus en plus à aller voir ce genre de film au cinéma. Je trouve que le film raconte pas grand-chose. Encore une fois, le méchant est mal écrit. C'est dommage. Je suis plus intéressé pour ce qui se passe à la fin que le film en lui-même. Et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve que le film n'a pas sa propre identité, quoi. Je sais pas, on s'en fout de tout. C'est vraiment dommage. Pourtant, c'est un film qui aurait pu être intéressant. Visuellement, je trouve qu'il y a certains trucs super, super sympathiques. Mais bon, non, franchement, c'est encore une nouvelle déception. Et puis voilà, un film oubliable, quoi. C'est dommage de dire qu'un film est oubliable. Voilà, j'y suis allé parce que je faisais rien là, mais je retourne à ma vie, quoi. Je l'aurais oublié ce soir, en fait. C'est dommage, j'avais bien aimé le premier en plus. Mais pas de spoiler. Je pense que c'est le seul truc qu'on peut en retenir du film, quoi. et c'est dommage.
Est-ce que je pourrais avoir votre prénom, s'il vous plaît?
David.
Oui, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir le retour de Captain Marvel et aussi de voir des personnages qui étaient sur les séries Disney+. Et les rencontrer tout ensemble, c'est chouette.
Merci, je pourrais avoir votre prénom?
Emmanuel.
Nous, on a bien aimé. Oui. On regarde souvent tous les Marvel, donc du coup, c'était sans hésiter qu'on venait voir celui-là, quoi. Donc voilà.
Parce que ça va passer vraiment pareil.
Ouais, vous avez aimé le fait qu'il y ait la team et tout.
Ouais.
L'action,
C'est surtout ce que ça va apporter dans les prochains films. Ce qui a été annoncé à la fin qui va. Je dis pas plus.
C'est ça.
Ça va amener beaucoup de choses, du coup, c'est très cool pour les prochains films qui vont sortir. Voilà.
C'est ça, pas de plus.
Merci. Je pourrais avoir vos prénoms?
Cécile. Tiffany.
Voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film. Il est au Pathé Wilson, où je l'ai découvert aujourd'hui. Mais il est aussi, aujourd'hui on est mercredi, hein, même si l'émission passe le vendredi, aujourd'hui on est mercredi, je vous fais le retour, je sors du cinéma et je vous fais le retour. Et donc il est aussi au Cégep Blagnac, au Gaumont-la-Bège, un peu partout, mais je pense que en salle Dolby, en salle IMAX, en salle ICE, il va être encore plus intéressant et encore plus fort. Je souligne quand même qu'il y a une très très belle distribution. On retrouve aussi Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury. On retrouve le chat Goose qui est particulier. Et il y a un moment, il y a une scène qui est très forte où on se demande comment sauver 350 personnes avec 10 capsules qui peuvent en contenir 10, je crois. Donc il y en a plein qui sont laissés pour compte et ils vont trouver un transport assez insolite. Mais je vous invite vraiment à aller voir le film. N'hésitez pas à découvrir The Marvel.
Carol Danvers, l'enfant prodige de la Voie lactée.
Nick Fury, mon borgne ténébreux préféré.
C'est comment là-haut?
La routine. Froid. Y a pas d'air. L'espace, quoi.
Captain Marvel, la grande destructrice. Tu m'as tout pris. Maintenant, c'est toi qui vas tout perdre.
À entremêler nos pouvoirs. Dès qu'on s'en sert, on prend la place l'une de l'autre.
Super théorie.
Toi, tu absorbes la lumière. Moi, je la détecte. Et Kamala...
C'est qui Kamala?
Salut. Kamala a le pouvoir de changer la lumière en matière. Et ça, j'en avais jamais entendu parler.
Je peux vous montrer si vous voulez.
Non.
Planète pour cibler. Je ne veux entraîner personne dans cette guerre.
Tu n'es pas toute seule à pouvoir protéger l'univers.
Alors on est une équipe?
Plus haut. Plus loin. Plus vite.
Le gentil chat, son papa, un gousse.
Ah, mais c'est immonde!
Non, là c'est trop. Tu veux bien?
Je gère.
Le dernier film dont je vais vous parler, c'est vraiment un réel coup de cœur. Pour un acteur que j'affectionne énormément, que j'avais eu la chance de rencontrer quand il était venu pour présenter Mon Inconnu. Oh là là, ça date. C'était en 2019.
mais je m'en souviens comme si c'était hier. C'est le grand, le merveilleux Benjamin Laverne. Et là, il joue dans un film, L'Abbé Pierre, qui est réalisé par Frédéric Tellier. Ce grand monsieur, un grand biopic. Mais Léo, dis-nous de quoi ça parle.
Né dans une famille aisée, Henri Grouès a été à la fois résistant, député, défenseur des sans-abri, révolutionnaire et iconoclaste. Des bancs de l'Assemblée nationale au bidonville de la banlieue parisienne, son engagement auprès des plus faibles lui a valu une renommée internationale. La création d'Emmaüs et le rat de marée de son inoubliable Appel de l'hiver 54 ont fait de lui une icône. Pourtant, chaque jour, il a douté de son action. Ses fragilités, ses souffrances, sa vie intime à peine crédible sont restées inconnues du grand public. Révolté par la misère et les injustices, souvent critiqué, parfois trahi, Henri Grouès a eu 1000 vies et a mené 1000 combats. Il a marqué l'histoire sous le nom qu'il s'était choisi, l'Abbé Pierre.
Frédéric Tellier, le réalisateur, nous offre une fresque incroyable de la vie d'Henri Grouès, plus connu sous le nom de l'Abbé Pierre. Du début, ça veut dire, alors pas de son enfance, hein, mais du moment de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à sa disparition. Et c'est incroyable. Benjamin Laverne incarne fabuleusement, sublimement l'abbé Pierre. Il donne vie. C'est vrai qu'au début, quand tu vois Benjamin Laverne, tu te dis, mais comment il va réussir à incarner l'abbé Pierre du moment de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la fin. Et il donne une impulsion, un charisme, une passion, un amour à l'abbé Pierre qui est vraiment fou. Avec lui, on a à ses côtés Emmanuel Berco, qui joue le rôle de Lucie Coutaz, la personne que j'appellerai la Geppetto de l'abbé Pierre, la bonne conscience, voilà, qui lui le rappelle toujours à l'ordre, même si elle l'admire énormément et qu'elle suit ses façons d'être, ses prises de position. Elle le rappelle à l'ordre et il suit ses conseils. Il y a un amour très fort entre ces deux personnages, une admiration fusionnelle et une admiration partagée entre les deux, aussi bien du côté de l'abbé Pierre que de Lucie Coutaz. Et franchement, Emmanuel Berco n'a pas à rougir de sa prestation parce qu'elle est sublime aussi. On a avec eux Michel Villermoz qui joue le rôle de Georges Leguet, qui est aussi très fort. Vous l'avez vu dernièrement dans un film qui s'appelle Bernadette avec un côté plus humour. Et là, vous le découvrez dans un moment de dépression, d'un moment où il veut finir avec la vie. Et l'abbé Pierre lui redonne souffle. Il lui redonne la possibilité de faire quelque chose, d'être utile à la société et à lui-même, de reprendre confiance en lui et de reprendre surtout confiance en la vie. Et c'est assez impressionnant. On a aussi une distribution assez folle autour d'eux. Antoine Laurent qui joue François, Alain Sache qui joue le père supérieur, Leïla Muse qui joue la jeune infirmière, Malik Amraoui qui joue Ahmed, Chloé Stéphanie qui joue Marlène Porte, et je pourrais tous les citer tellement, les seconds rôles, les troisièmes rôles, même les tout petits qui passent juste, ont aussi un charisme et une force, et ça, c'est parce que ils sont pilotés, on va dire, un véritable capitaine de bateau qui s'appelle Frédéric Tellier, et qui a donné une force, une impulsion à ce film vraiment fou. Et je trouve que on découvre avec stupéfaction des moments de la vie de l'abbé Pierre qui sont incroyables, des prises de parole qu'on avait complètement oubliées. On se rend compte qu'il a été résistant, qu'il a vécu des choses très dures, et qui à chaque fois qu'il a vécu des choses, même si C'est quand même le créateur d'Emmaüs. Il a donné énormément. Il a essayé de vivre. Il avait des moyens pour, mais tous ses moyens, il le donnait aux autres. Il a donné sa propre vie aux gens défavorisés, aux personnes qui ne pouvaient pas parler. Il leur a offert sa parole, sa condition, son statut. Et on peut que louer cet homme et qui est, je vous le dis, sublimement interprété par Benjamin Laverne. Alors je n'ai pas vos retours malheureusement parce que je n'étais pas à l'avant-première et quand je suis sortie aujourd'hui du cinéma, eh bien la séance n'était pas finie et je devais aller à la radio, on m'attendait, mais je suis sûre que vous nous ferez des retours, que vous nous donnerez vos avis. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir ce magnifique film au Patty Wilson, au Cégère Blagnac, un peu partout. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de le découvrir en projection presse au Patty Wilson, qu'on n'a pas pu rencontrer malheureusement le réalisateur parce que le timing était serré. Mais je peux vous dire, c'est vraiment une invitation et un hommage total à l'abbé Pierre et aux personnes qui étaient autour de lui, notamment Lucie, qui a été son bâton et qui l'a aidé de sa lumière jusqu'à l'ombre.
Quand quelqu'un arrive pour la première fois, les seules questions à lui poser sont « As-tu faim ? As-tu sommeil ? Veux-tu te laver ?»
Viens, on t'attendait.
Mes amis, croyez-moi, je comprends votre désarroi. J'étais à vos côtés, au front, résistant contre l'envahisseur.
Nous nous battons contre l'infamie. Contre la dictature.
Ce que vous faites, c'est très bien. Mais si vous êtes grillé, vous ne sauverez plus personne. Je vais bien vous aider.
Merci, ma sœur.
Vous allez devoir changer d'identité. Abbé Pierre, ça vous va ?
Va pour Abbé Pierre.
J'étais à vos côtés, sur les bancs de l'Assemblée.
Les malheureux souffrent et regardent vers vous. Et vous ne faites rien !
N'est pas un fils de grand bourgeois qui va nous faire la leçon !
J'étais à vos côtés, dans la rue et le froid.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée sur le trottoir en plein Paris. Elle serrait sur elle le papier par lequel on l'avait expulsée.
On m'a appelé la voix des sans-voix. On m'a célébré, on m'a applaudi. On m'a contesté, on m'a trahi.
1 milliard pour le logement d'urgence, c'était encore trop pour vous et vos amis parlementaires.
J'ai douté.
Vous passez trop de temps avec les médias. Les gens y voient de moins en moins la charité, la bienveillance.
J'ai désespéré.
Emmaüs, c'est fini.
C'est à nous de vous aider maintenant.
J'ai raté tellement de choses. Je me suis souvent trompé. Mais m'a-t-on seulement écouté ?
Vous vous rendez compte ? On a construit tout ça.
C'était Chaud Devant Ciné, sorti du 8 novembre. N'hésitez pas à vous rendre au cinéma, au Patty Wilson, au Cégère Blagnac, à l'Américaine Cosmographe, au cinéma L'ABC, à tous les cinémas qui nous ouvrent leurs portes et qui sont là pour nous faire partager des moments de cinéfilms. Rendez-vous au cinéma. It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black.